Pourquoi un métier artisanal comme le cinéma est en train de basculer très rapidement vers l'IA? À quel prix et à quel risque? Des images de documentaires ou glitch voulus par un réalisateur de publicité, ce que l'on peut et peut-être ce que l'on ne doit pas faire, nous cherchions à connaître le point de vue d'un réalisateur qui a eu une longue expérience dans l'audiovisuel, qui connaît les méthodes traditionnelles et qui est passé du côté production par IA générative. Non, attends, je vais le refaire. Production par IA générative. Côté obscur, forcément. Nous avons le plaisir de recevoir en chair et en os Jean-Louis Cruz, réalisateur de films publicitaires, formateur en IA générative, membre fondateur de la représentation à Toulouse de l'ANIA, l'Association Nationale de l'Intelligence Artificielle, à ne surtout pas confondre avec Jean-Louis Demian, c'est toute une époque, et fut mon réalisateur télé pour des émissions et publicités, c'était il y a plus de 2 décennies.
CPU, carré, petit, utile.
Avant de commencer, j'ai eu un mémo de mon équipe qui m'a dit qu'il fallait vous appeler Monsieur Cruz. On peut continuer en se tutoyant, parce que on se connaît bien et surtout que notre interview va avoir un ton peu formel. Je sens que tu vas me chambrer. Je sais pas pourquoi.
Non, je suis pas comme ça. Non. Alors effectivement, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis fort longtemps. On a collaboré sur plein de choses, les plus délirantes les unes que les autres grâce à ton esprit très pétillant. Donc, pourquoi Monsieur Cruz, c'est ça?
Pourquoi Monsieur Cruz? Non, moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur ton parcours. Quand je t'ai connu, t'étais déjà dans l'audiovisuel. Mais avant la réalisation vidéo, tu as commencé par la PAO pour du print, notamment des flyers. Comment tu es arrivé à la PAO pour commencer?
Alors d'abord, je vais essayer de la faire courte. Mon parcours, c'est je suis diplômé avec mention des Beaux-Arts en art graphique. Donc je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai travaillé direct dans la communication et la publicité, dans la grande distribution, parce que je voulais gagner correctement ma vie. Et ensuite, j'ai fait un peu de com pour certains bars et boîtes de nuit à Toulouse. Je me suis un petit peu amusé. J'étais justement repéré par rapport à ça, par la société qui s'appelait à l'époque Arletty 3. Et donc j'ai eu un premier pied donc dans l'univers de l'audiotel, etc. C'est comme ça un petit peu que je suis rentré dans cette société qu'on a en commun avec toi, Dasrit.
Et où à l'époque, d'ailleurs, comme pour les bars et tout ça, c'était le print qui était le média dominant pour communiquer.
Exactement. Donc j'ai commencé à travailler dans le print, effectivement, et je suis rentré là-bas pour travailler sur un magazine des World Apart, donc qui était un boys band à l'époque. Et donc j'ai commencé par ça, j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur des pubs en audiotel, on faisait du Minitel aussi, je crois, à l'époque. Il n'y avait pas encore le SMS Premium, donc c'était principalement ça. Et ensuite, je me suis amusé un jour. Je me souviens à l'époque, donc la société en question avait des licences. Et les licences, entre autres, il y en avait pas mal. Il y avait les Simpsons, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait d'autres licences dont j'ai oublié le nom.
X-Files et plein d'autres.
Je pense que oui, ils devaient avoir X-Files, effectivement. Et je me souviens notamment de Buffy contre les vampires. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc pour développer et exploiter ces licences, il était question de tourner des spots publicitaires. Et à l'époque, ils faisaient appel à un réalisateur toulousain qui s'appelait Bertrand Foreau et une société qui s'appelait à l'époque Digivision, je crois.
Qui existe toujours.
Et qui existe toujours. Donc, on leur commandait beaucoup de pubs. Enfin, il leur commandait beaucoup de pubs. Ça leur coûtait très cher. Et je me souviens qu'à un moment donné, il était question de faire une pub pour justement Buffy contre les vampires. Ils leur ont demandé à de nombreuses reprises. Et j'avais entendu vent de cette histoire. Et moi, un jour, je suis parti en week-end dans l'Ariège, tu vois, chez des amis. Et je me souviens c'était un soir orageux. J'avais ma petite caméra Sony, je me souviens plus laquelle, mais une toute petite caméra en mini DV. Et j'ai tourné des images dans un cimetière. Dans l'Ariège. Alors tiens-toi bien, il y avait une lumière très particulière, j'avais fait des images comme ça, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle de les mixer avec des squelettes en 3D, des effets de scratch, et ces images de tournées dans l'Ariège, dans un cimetière, pour proposer ça comme base de support pour un spot pour Buffy contre les vampires, célèbre série américaine de l'époque. Et j'ai monté un petit test comme ça, j'ai montré au big boss de l'époque, qui s'appelait Patrick Abadi. Et je me souviens très bien de sa réaction. Il a regardé, il a éclaté de rire. Je me suis dit, bon, c'est nul. Et il m'a dit, à partir de maintenant, c'est vous qui allez faire les spots. Voilà ce qui m'a sorti.
Sachant que quand on passe une publicité, c'était les publicités qui étaient prévues pour la télévision. Oui. Quand on passe sur les grands réseaux, ce genre de publicité, ça passe par un nombre incroyable de filtres de contrôle de qualité.
Ouais.
Donc, que ça puisse y passer, c'est une très très belle histoire. Je la connaissais pas en plus.
Tu vas découvrir plein de trucs. Ça s'est passé comme ça. Mon premier pied dans la réalisation audiovisuelle, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel, je ne devrais pas le dire parce que je suis aujourd'hui enseignant dans des écoles supérieures d'audiovisuel, mais je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel. Tout est intuitif, j'ai énormément consommé de making of sur les DVD que j'achetais. J'ai acheté plein de DVD de films. La première chose que je regardais, c'était les making of avant même de regarder les films, tu vois. Donc,
c'est quelque chose que la nouvelle génération ne connaît absolument pas. Non. Intéressez-vous aux DVD.
Ouais. Parce que je voulais savoir comment c'était fait. Donc, je regardais d'abord le making of avant même de regarder le film. Parfois même, je regardais même pas le film. Je regardais la technique, l'éclairage, les caméras, les travelling, les dolis, tout le matériel qui était utilisé. Mmh. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Après, je pourrais continuer. On a signé des licences, donc j'ai tourné avec plein de célébrités. Alors à l'époque, c'était beaucoup de célébrités du monde de la télé-réalité, Loana notamment, Charlie Lulu, en fait des gens, des animateurs comme ça. Après, il y avait tout un département, je sais pas si je dois en parler, Charme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Clara Morgan. J'ai tourné beaucoup de pubs avec elle. Du contenu aussi un peu sexy, mais jamais de choses... Enfin, ça fait pas partie de ma personnalité de faire des choses dans le porno, quoi. Mais j'ai croisé pas mal de célébrités de l'époque. Mmh. Lolo Ferrari, Laetitia, la reine des amateurs...
Toute une époque,
voilà,
comme on
toute
dit,
une
voilà.
époque.
Avant d'aller plus loin sur l'IA, as-tu déjà programmé, as-tu déjà pondu du code? JavaScript, C#, Bash,
alors,
tout ça.
Programmé, non. Je pense que alors ça, j'ai pas du tout la personnalité pour ça. C'est extrêmement rationnel. C'est pas la seule chose que j'ai faite, c'est quand j'étais ado, c'était programmer en basique. Alors tu vois, c'est avec
c'est déjà un bon départ.
Les ordinateurs de l'époque, Amiga 2000, MSX, tous ces trucs là. J'étais un passionné. Sega Yeno SC3000, tous ces trucs. Peut-être ça parle à certains de tes auditeurs.
Oui.
Voilà, tous ces trucs. Alors là, moi, j'étais vraiment complètement fan. J'ai eu le ZX81 quand c'est sorti. Ensuite, j'ai eu d'autres ordinateurs dont j'ai oublié le nom, mais j'en ai eu un paquet. Voilà. À l'époque, j'étais complètement fou, quoi.
Tu as une carrière de réalisateur de publicité, de vidéoclips, de reportages, de documentaires avec décors et acteurs réels. Il y a des reportages à toi qui sont passés dans le JT TF1 qui sont sublimes. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans la génération Paria?
Alors, l'IA... Pour tout expliquer, c'est une personne que nous avons en commun, justement, on en parlait juste avant l'interview, qui s'appelait Eric Laforgue, qui m'a dit « Intéresse-toi à l'image générée par IA ». Et je te cache pas qu'au début, quand je suis arrivé, c'était sur Discord, les premières utilisations de Midjourney. Je détestais ça. C'était que du texte et je déteste ça. J'aimais pas. Et au début, j'aimais pas du tout ce que je fais. Mes premiers tests, d'ailleurs, je les ai encore dans mon ordinateur. Je te les montrerai. Dommage, on peut pas les montrer à tes auditeurs, mais.
On va leur éviter la vision, peut-être. Ou sinon, on mettra l'URL,
ouais,
hein, et puis voilà.
Par exemple. Alors, c'était fin 2022 que j'ai commencé. Et au début 2023, je commençais à avoir des images que je trouvais assez intéressantes et ça a commencé comme ça.
Pour remettre dans l'idée, la génération par IA d'images, c'est arrivé début 2022. Donc, tu étais un peu dans les early adopters et en même temps, on était vraiment dans les débuts de cette technologie, quoi.
Ouais. Enfin, en tous les cas, j'ai trouvé que moi, ayant une formation Beaux-Arts, étant très attaché à la qualité de l'image, à l'originalité, au travail sur les textures, les lumières, etc., je trouvais que on commençait à avoir des choses intéressantes début 2023. Ouais. Et après est arrivé, je pense que ça devait être fin 2023, début 2024, la possibilité d'animer les images de façon assez intéressante, et j'ai commencé à glisser petit à petit vers l'animation, la production audiovisuelle en IA, on va dire, en 2024. Et ça commence vraiment à partir de 2025 où j'ai commencé à faire des vraies productions pour des sociétés de prod, etc. À commencer à utiliser l'IA de manière, entre guillemets, qualité broadcast et professionnelle.
T'as été bluffé par la montée en qualité.
Oui, et je le suis toujours parce que... je trouve qu'il y a de l'upgrade quasiment, tous les mois ou tous les 15 jours, je suis scotché, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, je dis, waouh, c'est génial, on ne pourra pas aller plus loin. Ben non, on y arrive. C'est-à-dire, à chaque fois, ça se remet, on repart à zéro, quoi. Enfin, pas à zéro, mais il y a tout le temps des nouvelles possibilités, des nouveaux outils qui apparaissent et c'est bluffant. Enfin, je te montrerai d'autres trucs, tu verras.
Tu t'es formé comment? Quelqu'un t'a aidé? T'as lu un article, des tutos sur YouTube, une formation en alternance à l'AFPA?
Alors, je me suis auto-formé à partir de tutos, de passionnés sur YouTube. Oui, c'était principalement YouTube et des sites un peu spécialisés dont j'ai oublié le nom, de personnes qui suggéraient des manières de travailler. En fait, les bases, c'est souvent des personnes comme toi, tu vois, qui défrichent le terrain et qui testent des trucs et qui sont des passionnés et qui finalement réussissent grâce à eux à passer le relais à des utilisateurs comme moi qui sont un peu réfractaires à la technique et tout. Enfin, c'est très difficile pour moi. Je sais pas le cerveau formaté pour ça, mais en tous les cas, grâce à des gens comme toi ou d'autres qui sont peut-être tes auditeurs, ça permet de passer le relais à des gens comme moi qui sont sur le terrain, qui produisent.
Monsieur Cruz, Jean-Louis, on va proposer un break musical. Habituellement, je ne fais la programmation musicale qu'après l'interview, mais si je te dis un clip réalisé par Michel Gondry, un clip réalisé par Chris Cunningham, un clip des Perfume, un extrait de la bande originale du film Le Congrès d'Harry Fallman, un de la bande originale du film A Scanner Darkly de Richard Linklater, un clip tourné en public de Meute, tu as deviné un petit peu la thématique?
Alors, les réalisateurs que tu as, Chris Cunningham, Gondry, ça me parle. Après, la suite, ça me parle moins, mais vas-y.
Ça va être sur l'image, mais c'est dommage, on fait de la radio. On se retrouve après ça. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Est-ce si libérateur que ça de ne plus avoir à dépendre du matériel loué, de la construction des décors et de la position du soleil?
Alors, oui, parce que la première chose que je me suis toujours posée comme question dès que je devais travailler sur une prod, c'est la faisabilité. Est-ce que techniquement c'est possible? Est-ce que j'ai les compétences ou est-ce que mon équipe a les compétences? Et surtout, est-ce que financièrement on peut le faire? Et jusqu'à présent, tout était construit à travers cette question-là. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, il y a plus cette question qui est posée. C'est-à-dire que au niveau budget, on n'a plus besoin de budget astronomie pour faire des trucs incroyables. Techniquement, tout est possible ou presque. Enfin, ça dépend de mes compétences, mais j'arrive à faire des choses vraiment qui me conviennent. Voilà.
Est-ce que pour toi, c'est une révolution qui est à peu près comparable à la démocratisation des outils de modélage 3D au ray tracing dans les années 80-90?
Ah, je pense que ça va au-delà, au-delà. Mmh. Alors même si ce que tu cites là, ça me parle aussi hein, à travers des sociétés toulousaines, notamment je pense à Volume, tu te souviens de Volume 4D?
Volume 4D qui était rue Pharaon, oui, c'est, qui était un logiciel d'édition, de rendu 3D, d'abord sur Amiga, qui ensuite est allé sur PC. Je crois qu'ils ont continué assez longtemps d'ailleurs.
Je crois, ouais. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est oui, c'est enfin ça va même au-delà de la création en ray tracing. J'ai l'impression que les seules limites de l'IA aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est pas très complexe à utiliser. Et c'est surtout on est capable de tout matérialiser avec cet outil-là. Il est juste incroyable, quoi.
Et est-ce que tu penses que l'IA générative pourrait rendre obsolète la 3D?
Je ne sais pas. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que la 3D, c'est pas mon domaine. Je trouve ça passionnant, là aussi. À la rendre obsolète, je pense qu'il faut partir du principe que l'IA générative est un nouvel outil avec un nouveau raisonnement, une nouvelle approche. Après, j'ai l'impression que c'est un outil qui va servir de pont vers autre chose. C'est-à-dire que la 3D permettait de faire de la 3D, 3D, je sais déjà, mais que l'IA générative va permettre d'aller au-delà de la simple 3D, entre guillemets. Je pense que ça va être un pont vers pour aller vers au-delà, encore plus loin. J'ai du mal à l'expliquer parce que même moi, je ne sais pas trop vers où on va. Je sais que c'est quelque chose d'incroyable et formidable. Et, ça fait peur même à certains, mais je pense que ça va aller très loin, quoi. Ça. Voilà.
T'as tenté de t'y amuser sur des concepts justement qui sont au-delà de la 3D, des concepts mathématiques genre hypercube et tout le reste?
Ah, je sais pas ce que c'est, vas-y, explique-moi ce que c'est.
C'est en fait c'est une représentation du cube en 4D, c'est-à-dire au lieu que tu compenses à autant comme une dimension, c'est une autre dimension à côté, ou ce genre de choses de représentation. Pense à du MC Escher ou ce genre de choses, quoi.
Ah oui.
Où justement on est au-delà du rationnel.
Ouais. Je pars pas dans ces, je suis beaucoup trop matérialisation rationnelle dans ma tête, en fait. Faut que l'image soit matérialisable. Les seules choses que j'ai exploitées en 3D avec de l'IA, c'est le fait de partir d'un plan plat d'architecte et d'être capable de le matérialiser en 3D juste avec un prompt, tu vois, à partir d'un plan, en donnant les instructions, qu'elle soit capable de me matérialiser le lieu et de pouvoir s'y promener, etc. Parce que ça fait partie d'une demande qu'on m'a évoquée il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une semaine. Une nouvelle école qui va être créée. Et pour l'instant, les responsables, enfin, les propriétaires de cette école n'ont que des plans d'archi. Ils m'ont dit, est-ce qu'il est possible en 3D, enfin, grâce à l'IA, pardon, de fabriquer et le lieu très facilement, très rapidement. Parce que moi, j'ai fait la matérialisation de l'espace business de la Royal Air Maroc. Parce que ça aussi, c'est une demande qu'on m'a faite pour voir si c'était possible. Et bah, a priori, oui, c'est possible, juste à partir de simples photos.
C'est impressionnant. Tu m'as communiqué un site de démo reel, donc un portfolio vidéo représentatif de ton art, donc sur le site monsieurcruz.com, qui est différent de celui que tu avais avant, jeanlouiscruz.com, alors que, franchement, les images de l'ancien site, bah, elles sont superbes, elles sont tournées à travers le monde, dans des endroits d'exception, avec des moyens fantastiques. Donc, question psychanalytique, on tire un trait sur le passé ou c'est que deux façades différentes pour deux demandes différentes ?
Eh bien, c'est exactement ça, c'est deux façades différentes pour deux demandes différentes. Pourquoi il y a deux noms différents ? Jean-Louis Cruz, entre guillemets, je suis connu en tant que réalisateur classique avec des outils classiques. Et quand j'ai commencé à basculer vers l'IA, j'ai voulu créer un profil artiste pur au début parce que je faisais que de l'image et je voulais garder mon nom, donc je l'ai appelé Monsieur Cruz tout attaché en un seul mot. Parce que je me suis dit, si je le mets sous le nom de Jean-Louis Cruz, on va tomber sur mes réalisations vidéo, on va rien comprendre, alors que j'avais créé un univers artistique sous le nom de Monsieur Cruz. Et ça a évolué, en plus avec l'arrivée donc de la vidéo en IA, j'ai été obligé de créer dans mon site Monsieur Cruz une rubrique qui s'appelle Monsieur Cruz Studio, dans laquelle je développe tout ce qui est production audiovisuelle en intelligence artificielle.
Du coup, ça veut dire que tu ne mets pas entre parenthèses ta précédente carrière. Elle va continuer de toute façon si tu as la demande.
Oui, tout à fait. Elle continue. D'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pars à Los Angeles le mois prochain sur une production classique, entre guillemets.
D'accord.
Enfin, classique. Aujourd'hui, je tourne avec mon iPhone, tu vois. D'ailleurs, je tourne plus avec des grosses caméras, avec du matériel lourd, etc. On me demande de tourner en run and gun. Alors, je travaille avec les DJI Osmo Pocket 3. Je travaille là pour la prochaine fois, ça sera avec mon iPhone parce que ça crée des images incroyable, déjà en ProRes HQ de niveau qualitatif incroyable, donc voilà, petit à petit.
Et ça coûte moins cher qu'une RED.
Ah mais complètement, oui. Oui, oui.
C'est plus facile à réparer aussi, tu vas au magasin.
Et puis au niveau post-production, une RED, traiter des fichiers RAW, c'était extrêmement lourd et complexe, tandis que là, c'est bon, voilà quoi, on a une image assez qualitative, franchement, pour rien du tout. Enfin, rien du tout, j'exagère, ça coûte cher un iPhone, mais quand on voit le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Hein.
Ça se comprend. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Monsieur Cruz, on l'a bien compris, la boîte de Pandore est ouverte, l'IA générative cavale dans le monde, mais du coup, tu perds la part d'improvisation d'un acteur, son jeu, les incidents heureux de plateau et le bonheur d'aller tourner sur les plages des Caraïbes ou de se triturer la tête pour réaliser mieux avec les moyens du bord un plan qui ne peut être fait. N'est-ce pas frustrant de ne plus avoir de limites ?
Alors, c'est frustrant de ne plus avoir d'équipe pour moi. Toutes les personnes avec qui je travaillais et je continuais à travailler, mais de manière beaucoup plus épisodique. Mon équipe, elle a été constituée il y a au moins 15 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai, je travaille tout seul chez moi, devant mon ordinateur, et que les échanges humains sont extrêmement enrichissants et tout. Avant, j'avais un vrai échange, alors qu'aujourd'hui, ben, je travaille sur des projets où je suis tout seul. Après, alors ta question, c'était n'est-ce pas frustrant de ne plus avoir de limites ? Je dirais c'est pas faux, effectivement, parce que souvent le fait de ne pas avoir de moyens, ça suscite l'imagination et trouver des plans A, B, C, D, du bricolage et tout ça. Il y a ce côté Michel Gondry, justement, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Effectivement, l'IA, il y a nos limites et oui, c'est pas faux ce que tu viens de dire. Je me suis pas posé la question, mais tu as raison, effectivement.
Et t'as pas peur du syndrome George Lucas ? Je veux dire, sur la trilogie Star Wars qu'il a faite durant les années 2000, où il était seul aux manœuvres, il avait que des yes-men autour de lui, et finalement, personne n'osait lui dire que Jar Jar Binks, c'était de la merde.
Ben, oui. Tu as raison. Oui.
C'est brutal, comme non, image. C'est l'effet citadelle. C'est pas un risque, finalement, quand tu as pas la relecture d'un être humain?
Mais si, moi, j'aime beaucoup, en plus, travailler avec les gens, hein, tu vois, je trouve que tout échange est toujours très constructif, même te croiser cet après-midi, tu me fais me poser des questions dans la tête, et ça, c'est une très bonne chose. Non, bien sûr, tu as raison. Le rapport humain est hyper important, constructif, et suscite la créativité, exploiter des nouvelles pistes et tout, du questionnement.
On voit dans ta bande démo que tu fais sur tes productions Génération par IA, du moins au moment de l'enregistrement de l'émission, que tout n'est pas parfait, il y a des éléments qui changent de façon impromptue, d'autres qui ne sont pas forcément ultra réaliste. Est-ce un parti pris artistique ?
Alors, non, c'est pas un parti pris.
Il faut savoir que dans ma bande démo, alors sur mon site Monsieur Crew, la bande démo est déjà ancienne. Je l'ai pas réactualisée. J'ai fait d'autres choses depuis. La bande démo de mon site date de été 2025, donc c'est la préhistoire pour l'IA. Ouais.
On tourne en mars 2026, hein, donc,
d'accord.
Donc ça fait même pas 9 mois, quoi. C'est ça qui est fou.
C'est très vieux, c'est très. Et en plus, dans cette démo, il y a des contenus qui ont été créés début 2025. C'est un mélange. Et c'est vrai que au début, au moment de ces créations, je faisais que du contenu pour me faire connaître et pour montrer les possibilités d'IA. Et aujourd'hui, je suis plus sur du terrain. C'est-à-dire, j'ai des demandes, donc je m'occupe moins de faire de la production pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais tu as raison, effectivement, c'est pas.
T'as plus besoin de renouveler ton CV puisque t'es connu dans le domaine.
Oui et non, c'est-à-dire que l'IA c'est un puissant frein. Il faut continuer tout le temps à produire des nouvelles choses parce que comme tu l'as souligné effectivement, il y a des approximations et des choses qui sont pas parfaites. Donc il faut sans arrêt produire du nouveau contenu qui corrige ce qui n'allait pas dans les précédentes productions.
Et pourquoi ne pas avoir exploré les hallucinations graphiques, ce qui était quand même à la mode d'ailleurs par pas mal de gens qui ont utilisé la génération par IA entre 2022 et 2024. Et s'en amuser, finalement.
Alors, très clairement, au niveau de mes productions, mon parti pris, c'est proposer des tests et des démos de quelque chose qui pourrait être directement mis en application dans l'univers professionnel et pour que je gagne ma vie avec. Parce que c'est mon métier, donc je dois gagner ma vie avec des choses qui peuvent, tu vois. C'est de l'alimentaire, entre guillemets. Donc, je vais pas trop m'amuser à faire des choses complètement délirantes, même si j'adore ça. Hein, je trouve ça... Et en plus, l'IA, ça a un coût. Enfin, je pense que tu dois le savoir, il y a des abonnements. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas un programme qu'on achète une bonne fois pour toutes et puis après, on s'amuse avec. Non, pas du tout.
Ça dépend si tu peux l'installer, mais pour l'IA générative pour les images, là, par contre, il te faut un PC énorme. Je dis PC alors que t'es sur Mac, mais il n'y a pas de Mac assez puissant pour ça.
Hein. Non, exactement. J'ai un ami qui m'a dit la même chose que toi. Ouais. Donc, effectivement, je travaille à partir d'abonnements, différents types d'abonnements et ça a un coût, effectivement.
Le règlement européen 2024-1689, alias IA Act, va obliger à indiquer quand une œuvre a été réalisée par IA. D'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les publicités, dans les documentaires, dans des films, que certaines scènes ont été générées par IA. Adhères-tu ou non à cette contrainte? Est-ce que tu penses que ça doit être indiqué? Ou finalement non, il faut laisser le vague?
Moi, je pense qu'il faut que ce soit indiqué. Ne serait-ce que pour se protéger de tout ce qui est fake news, deep fake, etc. Parce que je sais que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement. Donc, moi, je suis carrément pour, évidemment, de l'indiquer, surtout si c'est troublant, si c'est... Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement, enfin, depuis déjà quelques mois, avec ce genre de sujet, quoi.
Je me souviens des historiens qui avaient relevé nombre d'erreurs dans les premiers documentaires sur la Première Guerre mondiale où les images avaient été colorisées, où par exemple, justement, les couleurs des pantalons des Français, puisque en fait, pendant la première année, ils étaient en rouge. Hein, c'est pour ça que les Allemands les dégommaient super vite. Et ensuite, il y a eu le bleu horizon. Bon, ça, je vais pas y venir. On fait pas une émission historique de ce genre-là ici. Mais est-ce que tu estimes qu'il faut mettre des garde-fous dans une production? Par exemple, le groupe Canal+ a établi une charte interne pour l'usage de l'IA générative aussi bien pour ces séries que pour les documentaires qu'ils font pour les chaînes Planète et tout ça.
Alors, tu viens de poser une question excellente parce que du coup, ça m'a fait me rappeler quelque chose.
Non, mais tout le monde me dit que je pose de très bonnes questions. Vous êtes pénible.
Écoute, on est fan de toi. Et non, c'est une excellente question parce que justement, il y a quelques mois, je suis tombé sur un YouTube, un reportage, sur les camps de la mort, sur Auschwitz. À aucun moment, il a été précisé que c'était de l'IA, les images qu'on voyait.
Oui, ça a fait scandale. Ça a fait beaucoup scandale.
Alors, c'était pas des vidéos, hein. C'était des photos. Et moi, j'ai vu que c'était de l'IA. Pourquoi? Parce que, alors, on le voit en général, peut-être moins maintenant, mais on le voyait à l'époque. Il suffisait de regarder des personnages en arrière-plan. Ils étaient souvent un peu déformés, ou ils avaient une attitude un peu bizarre. Mais les premiers plans étaient troublants de véracité. Et en plus, moi, au moment où je l'ai vu, j'ai trouvé ça, les images, je les ai trouvées extraordinaires. C'est dans un deuxième temps, je me suis dit, mais c'est trop bien. Où ils ont trouvé tout ce contenu? Aussi riche parce qu'il y en avait énormément et j'avais jamais vu ces images et c'est là que j'ai compris que c'était de l'IA. J'ai vu ce reportage il y a un peu plus d'un an, donc à un moment où on l'utilisait un petit peu moins sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, etc. Mais là, le reportage était extrêmement professionnel, hyper bien produit et tout, et j'aurais jamais imaginé qu'ils osent faire ça parce que à aucun moment il est mentionné que c'est de l'IA. Donc c'est extrêmement grave de faire ça. Voilà.
Soyons clairs. Est-ce que tu as regardé la série documentaire de Darren Aronofsky sur les 250 ans de la Révolution américaine? Il produit un épisode par jour, c'est généré par IA.
Non, du tout.
On va pas en parler dans ce cas-là. Récemment, donc mi-décembre 2025, il y a eu une série de deepfakes par IA génératif qui a été postée sur Facebook, qui montrait avec un réalisme époustouflant une journaliste virtuelle dans un Paris virtuel annonçant un coup d'État. On a appris que c'était un adolescent du Burkina Faso qui les a produits. Qu'as-tu pensé ? Good game, tu iras loin, ou mais pourquoi Vladimir Poutine ne m'a pas appelé ?
Alors, justement, on a évoqué ce sujet il y a quelques temps, effectivement. Alors, moi, j'ai trouvé... Alors, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que le Burkina Faso, je connais très bien, puisque j'ai tourné plusieurs fois là-bas. J'ai trouvé étonnant qu'un jeune homme du Burkina Faso ait une vie... un focus sur lui, enfin, sur son travail... aussi énorme international se passer dans tous les journaux et que il ne souhaite pas se faire connaître, parce que c'est quand même assez extraordinaire qu'une grande puissance comme la France tout d'un coup ça crée un problème ce genre de production, et je me suis même demandé si c'était vraiment un jeune homme du Burkina Faso qui avait produit ça, parce que je trouve ça un peu douteux. Voilà. Parce que, comme je te dis tout à l'heure, la création d'intelligence artificielle nécessite des moyens. Là-bas, le salaire, je crois, le salaire commence à 75 ou 100 euros par mois. Donc, je vois mal une personne s'abonner à des sites, à moins qu'il ait trouvé un site gratuit, mais de cette qualité-là, je sais pas.
Plus la bande passante de l'ensemble du Burkina Faso, et j'ai eu encore confirmation de journalistes sur place.
Ouais.
C'est quand même, faut avoir beaucoup de moyens, quand même, là, effectivement.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le connaisse pas.
Donc, qu'il soit fils d'un apparatchik et tout ça, ça on comprend, mais qu'effectivement, ils disent pas qui il est.
Mais bien sûr. Je comprends pas. Aujourd'hui, on est à l'ère quand même, tout le monde a envie d'être connu sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Ce jeune garçon ou ce jeune homme, ou je sais pas, c'était une opportunité, mais inespérée pour lui, de se faire connaître et de montrer la qualité de son travail. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, à titre personnel, mais je trouve ça un peu étonnant.
Je pense que mon avis, tu vois, il est très synthétique et très éloigné de tout ça, et je n'ai fait que poser des questions à des spécialistes du sujet, puisque j'avais des contacts, effectivement, au Burkina Faso, et d'autres dans des journalistes et dans certaines ONG, qui sont spécialisés dans l'information, la sécurité informatique et tout le reste.
Burkina Faso, entre guillemets, c'est éloigné de la France, dans les conditions qu'on connaît, et...
Deux coups d'État successifs.
Je sais pas, je trouve ça un peu... Je pose la question, je trouve ça un peu troublant. Voilà.
Jean-Louis, je peux t'appeler Jean-Louis, Monsieur Cause.
Bien sûr.
Est-ce que pour toi, il y a une vague d'hostilité qui est aussi justifiée que le dédain envers le rotoscoping ou la 3D en animation?
Alors oui, il y a une vague d'hostilité, mais je trouve qu'elle est en train de s'estomper. Et je vais te donner un exemple, parce que il y a environ un an et demi ou deux ans, moi j'ai fait une exposition de mes créations en intelligence artificielle. Et les gens, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais ce n'est pas de l'art, d'accord ? Chose à laquelle je répondais, mais c'est quoi de l'art pour vous ? Donc évidemment, il y avait un blanc. Sans prétention, encore une fois, j'ai fait les Beaux-Arts, je suis diplômé, donc s'il est question de parler d'art, je sais de quoi je parle. Les personnes, tu vois, est parti.
Ça me fait penser. Est-ce que tu te souviens, Galerie Saint-Georges, il y avait un magasin qui proposait de faire des hologrammes. Tu faisais les médaillons en hologramme, etc. Oui, oui. Et t'avais souvent des gens qui bitchaient dessus, qui disaient c'est pas de l'art, etc. Ouais. Alors quand même, t'as du cadrage, t'as tout ça, t'as contraintes techniques.
Moi, j'ai une vision très large de l'art. L'art, pour moi, c'est quelque chose qui doit générer une émotion, quelle qu'elle soit. Une attirance, un rejet, ça peut être esthétique, ça peut être répugnant, c'est de l'art. À partir du moment où ça crée quelque chose en toi, tu vois. Et concernant mes images, j'ai jamais eu la prétention d'être un artiste. J'ai même une casquette, elle est marquée « I'm not an artist » pour les soirées, justement, où je fais des expositions, parce que dès que les gens commencent à m'agresser, entre guillemets, je leur montre ma casquette, et il y a marqué « I'm not an artist », le problème est enfin, le sujet est clos. Donc, voilà. Et là, en fait, ça, c'est ce que je vivais il y a environ un an et demi, entre guillemets, sur les expos. Et là, dernièrement, j'ai fait une exposition à Montauban, à la Maison de la Région. Et là, par contre, j'ai été très étonné, parce que j'ai eu des photographes tradis qui travaillent avec de la photo, des personnes qui s'intéressent à l'art. Et là, pour le coup, ça a switché. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, ils ont compris que les outils d'intelligence artificielle, c'était des outils on peut avoir entre les mains le même outil selon la personne qui va l'utiliser, on va avoir le même, des résultats différents. Moi, je leur prends pour exemple une palette de peinture avec un pinceau. Vous la mettez entre les mains d'une personne lambda, elle va vous faire quelque chose. Vous mettez le même outil entre les mains de Picasso, ça va être, eh ben, elle va faire autre chose. Eh ben, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est juste un outil et selon les mains entre lesquelles elles sont mises, eh ben, on aura des résultats différents.
Est-ce que tu comprends qu'il y a une frange de professionnels fortement hostiles dans le domaine de l'audiovisuel?
Oui. Alors, comme je dis, oui, parce que souvent, ils ont peur que l'IA leur prenne leur travail. Et comme a dit, alors, je sais pas si c'est pas Xavier Niel, mais qui lui-même l'a repris d'une autre personne, c'est pas l'IA qui va vous prendre votre travail, c'est celui qui sait utiliser l'IA. Donc, moi, je dis, l'IA, c'est un TGV. Là. Alors, il y a des gens qui sont sur le quai en train de regarder le train partir. Et ils vont utiliser leur mouchoir pour dire bon voyage. Et puis après, ils l'utiliseront pour pleurer, leur mouchoir. Et puis, il y a ceux qui sont en train de monter dans le train, voire qui sont déjà dans le train. Et voilà. Donc, je comprends ces gens-là, mais c'est la même chose que quand est apparu les appareils photo numériques. Moi, j'ai vécu la même chose avec les appareils photo numériques par rapport aux photographes qui utilisaient l'argentique. C'était exactement pareil. Ils faisaient un rejet en disant c'est trop facile, c'est machin, c'est blabla. Bah aujourd'hui, je pense que voilà.
Tout comme tu as vécu les moines copistes face à Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie à caractère mobile.
Je l'ai pas vécu, mais c'est bien ce que tu fais comme rapprochement, parce que c'est exactement le même problème. De la même façon que quand est apparu, entre guillemets, Internet, où ça a été utilisé, les enseignants disaient non, le savoir doit être pris dans les livres, dans les bibliothèques, et surtout pas sur Internet. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'enseignants qui utilisent les livres et qui ne vont pas sur Internet pour faire leurs cours.
C'est tout à fait vrai. Et que penses-tu des acteurs qui sont mis en grève pour obtenir le droit de ne pas être forcés à être scannés en 3D par les sociétés de production?
Alors, est-ce qu'ils sont forcés réellement? Ou est-ce que... Vraiment?
Ouais.
D'accord.
Ouais. Après, sur la production des récentes séries, par exemple, de Game of Thrones, jusqu'à la toute dernière, là, qui est arrivée, où c'était plus le cas, ils étaient obligés de passer dans un tunnel lumière et caméra, une fois maquillé et tout ça, avec la démarche et tout le reste, tout a été scanné.
D'accord. Bah là, je suis carrément outré, anti ce genre de choses. Ce que je trouverais normal, c'est que ils aient la possibilité d'accepter ou non, et que s'ils acceptent, dans ce cas-là, il y a un reversement de droit à l'image chaque fois qu'il y a une utilisation de leur attitude, de leur physique, de leur timbre de voix, etc. Il y a des reversements. C'est ce qui est normal.
Donc il reste une société d'auteurs à côté des 60 sociétés d'auteurs qui existent déjà en France à créer de ce côté-là pour toi.
Je pense, c'est une très bonne idée.
Ouais. Ouais. Et justement, les acteurs qui ont accordé en licence leur voix, leur démarche, leur visage et tout ça, ça se trouve, il y a un catalogue qui existe?
Alors je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a des photographes qui ont été sollicités, parce que j'en connais, à qui on a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour mettre à disposition votre contenu photo afin d'alimenter des IA, et que chaque contenu mis à disposition a été payé. Alors c'est un prix forfaitaire qui est insignifiant. Mais en tous les cas, ils ont été payés pour ça. Après, je pense qu'il y a un modèle
en France ou aux États-Unis. C'est pas la même gestion de droits d'auteur entre les deux.
La personne dont je parle est française, mais par contre, c'est Amazon qui lui a demandé.
Donc, d'accord. Ah, Amazon, donc peut-être qu'effectivement, ça soit un contrat copyright. Donc, ça veut dire qu'il cédait tout définitivement, quoi.
Exactement, je crois que c'est ça là, le principe, hein, si c'est de tout. J'ai aussi une société de production au Maroc à qui on a demandé de mettre à disposition du contenu vidéo. Cette fois, c'était pas des photos, c'était de la vidéo. Mais là aussi, ils ont considéré que c'était payé une misère. Mais bon.
Oui, forcément. Et est-ce que tu peux tourner un acteur, c'est-à-dire faire une mise en scène avec un acteur, tourner la vidéo, envoyer la vidéo à un moteur d'intelligence artificielle générative pour lui dire « Tu m'habilles l'acteur comme ça et je veux qu'il évolue dans tel décor » ou est-ce qu'il y a des limites quelque part juridiques ou techniques?
Non, c'est tout à fait possible. Alors techniquement, non, il n'y a pas de limite parce que moi, j'ai déjà fait, t'as pas besoin de tourner avec l'acteur, c'est juste avec quelques photos. Tu alimentes une base de données, je te montrerai. J'ai fait des tests, par exemple, justement pour des démos pour le Maroc avec le joueur de foot, où je l'ai mis en scène dans un avion, je l'ai mis en scène dans une fausse pub, et tu pour montrer que techniquement, c'était possible. uniquement avec des photos, non pas de la vidéo. T'es sans l'accord, c'était juste pour une démo interne, attention.
D'accord, donc je biperai.
C'était pour une démo interne et même, je crois que je l'ai mise en ligne, mais j'ai précisé que c'était une démo, que je n'ai pas l'accord des marques, etc. C'était juste pour montrer ce qu'il était possible de faire. C'est pas pour vendre quelque chose, c'est juste pour montrer techniquement ce qu'il est possible de faire. Faut dire que je vends, entre guillemets, mon savoir presque, mes compétences, mais je le vends pas de manière...
T'aurais pu le faire avec Jérôme le commandeur ou Gérard Larcher, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, qu'il ne soit pas footballeur.
Mais en tous les cas, bon, les tests que j'ai fait, c'est pas pour vendre un projet, c'est pour montrer la technique, hein. Voilà. Je suis pas une agence. Hein.
Alors, j'aime beaucoup ce que tu produis. Il y a notamment une série d'images de personnages de l'Empire de Star Wars dans un look afro-futuriste. Est-ce que tu comprendrais que cela froisse aussi bien la Lucasfilm sur leur copyright que des artistes africains qui pourraient t'accuser d'appropriation culturelle?
Alors, sur cette série, je peux en parler. Je t'explique. Elle a été faite à partir de photos que j'ai faites au Burkina Faso, de murs peints, de maisons. L'idée, c'était de prendre deux extrêmes, de prendre l'univers de Lucas, qui est futuriste, et de prendre quelque chose de beaucoup plus authentique, avec un savoir-faire africain, etc. Et de voir, de fusionner les deux. Ce sont de très vieilles images que j'ai faites. Je sais pas si c'est pas de 2024. Hein. C'était juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et le résultat, je l'ai trouvé assez étonnant.
Ah, il est bluffant.
Ouais, j'ai trouvé ça chouette. Ouais. Est-ce que ça peut appropriation culturelle? Alors, j'ai l'impression que qu'il reste plus grand chose de il y a un mood africain dans ce qu'il y a, mais c'est plus dans les couleurs, les textures, mais après graphiquement et tout, c'est tellement redigéré, réinterprété par l'IA que on va dire qu'il y a une influence africaine, mais c'est pas un copier-coller littéral non plus, hein. À la limite, il y a George Lucas qui pourrait se plaindre.
Enfin, maintenant, non, c'est Disney. Il a vendu tout.
Oui, mais sachant qu'il y a une, comment dire, dans tout ce qui est du domaine artistique, moi, ça m'a toujours étonné. On peut faire ce qu'on veut. On peut prendre du Mickey, etc. Ça a été fait et refait dans tous les sens. Le retriturer et faire une œuvre artistique, il n'y a pas de droit à payer et d'autorisation. Dans tout ce qui est du domaine artistique. Et ça, c'est valable en Europe, aux États-Unis. Je sais pas, tu as dû voir déjà des Mickey détournés, mais Warhol l'a fait, ou d'autres aujourd'hui, des tableaux entièrement fabriqués à partir de licences. Superman, ou toute la série des Avengers, enfin tout, quoi. Tout a été détourné. Même des marques comme Vuitton, etc. Les logos de Vuitton sont collés sur tout et n'importe quoi pour faire des œuvres d'art, et ils disent rien du tout. Hein. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Ah
ils sont pas mal, moins que Marvel, hein, depuis qu'ils sont à la production cinéma, ils sont pas tristes au niveau avocat.
Dans le domaine artistique, dans le domaine artistique, c'est hallucinant, tu peux faire presque tout ce que tu veux, quoi. Il y a pas de non, tu verras, tu vérifieras.
Comment appréhends-tu les droits d'auteur sur les images générées? Parce que l'IA s'est alimentée d'œuvres sous copyright, et vu que tu utilises un outil en ligne pour créer, tu es tributaire des conditions générales d'utilisation du service. Alors, je précise qu'on enregistre le 9 mars et que des jugements sont en cours aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, donc peut-être que la situation va complètement changer d'ici les deux prochaines semaines.
Alors ta question c'est est-ce que ce que je crée...
Ouais, comment tu appréhendes, c'est-à-dire est-ce que tu mets DR, c'est-à-dire droit réservé sur les images que tu génères, ou t'as mis une petite capitalisation de côté en disant si jamais on me demande de payer des droits parce que c'est inspiré de tel truc.
Alors au moment où moi j'ai pris un abonnement, pardon, la plupart des images que je crée sont faites sur Midjourney. Et quand j'ai pris l'abonnement le professionnel, qui est l'abonnement le plus cher, il est de l'ordre de, je crois, c'est 600€ par an, je crois, un truc comme ça. Dans le contrat qu'on signe, il est spécifié qu'on est propriétaire des images, qui n'ont pas le droit de les réutiliser pour autre chose. Normalement, elles partent pas dans un flux, si tu veux, contrairement au premier prix des abonnements où elles se retrouvent sur un forum un peu partout.
Oui, elles font partie du fond alimentant l'intelligence et tout ça.
Et en plus, on a accès aux prompts. C'est ça qui est un peu dangereux, tu vois. Ouais. Parce que moi, ce que je fais ne remonte nulle part. Enfin, j'ai la possibilité de le cacher et c'est ce que je fais. Donc, ni mes prompts, ni mes créations ne sont visibles ni sur Discord, ni sur le flux de Midjourney. Donc, a priori, d'après le contrat que j'ai, je suis censé être propriétaire, ils sont pas censés les réutiliser. Après, je sais pas ce qui se passera dans un second temps. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas...
Et histoire de refroidir, puisqu'on est dans l'hiver le plus chaud depuis l'enregistrement des services météo en France, donc depuis le début du siècle dernier, écologiquement, est-ce que tu as des cas de conscience où finalement le bilan CO2 est positif par rapport à la demande du client qui voulait filmer des ULM en haut de la cordillère des Andes?
Alors, effectivement, c'est bien ce que tu soulèves ce problème parce que j'avoue que je me pose pas cette problématique aujourd'hui, alors que je sais que l'IA utilise énormément de ressources. Si tu veux, moi, c'est pour fabriquer des choses pour dans le cadre de mon travail et pour en vivre, entre guillemets. Tandis qu'il y a énormément de choses qui sont générées pour s'amuser, pour faire des blagues, pour les réseaux sociaux, pour... voilà, je pense que là, il devrait y avoir un cadre et surtout éviter les outils gratuits. Je pense qu'il devrait être payant et qu'une part de cette somme-là soit...
C'est une manière de protéger ton boulot.
Peut-être, on peut le voir comme ça aussi. Mais moi, je considère, je paye pour ça. Et je pense que même une partie de ce que je paye devrait être peut-être donnée pour des problématiques écologiques ou je ne sais quoi. Enfin, mais c'est vrai que ce problème-là, c'est bien de le poser. Je me pose des fois cette question-là. Mais j'avoue que bon, c'est mon travail et que j'en vis. Ça m'est difficile, tu vois, d'être jugé parti, quoi.
Eh ben, monsieur Cruz, merci quand même de cette prise de position courageuse, surtout que tu es en déplacement et que moi je joue à domicile. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Les systèmes d'IA générative sont des machines à amplifier les biais, ça je le vois à chaque fois que je tente de m'en servir, s'appuyant sur des points communs statistiques, et c'est rare en général qu'on a vraiment de la création, c'est vraiment, on revient à chaque fois sur quelque chose qui préexistait déjà, ou qui sont vraiment tout à fait standards. Est-ce qu'on se condamne qu'à répéter des lieux communs?
Alors, j'ai un point de vue très précis là-dessus, je considère que l'IA fonctionne un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire, notre cerveau, je parle en tant que créateur, ce que je crée aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, tout ce que j'ai vu à la télé, tout mon environnement, etc., etc. Et l'IA, elle fonctionne en quelque sorte un peu comme ça, elle s'alimente de tout ce qu'il y a sur dans le monde. Et il est évident, en ce qui me concerne, que si j'étais né sur, je ne sais où, en Indonésie ou sur une île déserte, ce que je produis ne serait pas ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve que le fonctionnement de l'IA est un peu similaire. On n'invente rien, on ne fait que, sciemment ou inconsciemment, que récupérer ce qu'on voit, ce qu'on vit, le redigérer et le réinterpréter. Et je trouve que la mécanique de l'IA est un peu comme ça. C'est-à-dire que je crois pas vraiment à la création. Même quand Picasso sortait ses œuvres assez incroyables, il s'inspirait de l'art africain, il s'est inspiré de plein de choses, il n'a fait que les digérer, les réinterpréter, selon ses influences, etc. et sa culture.
On peut parler de Liechtenstein, hein, dans ce cas-là, si on prend les peintres, puisque lui faisait qu'agrandir des cases de DC Comics.
C'est ça,
ouais. pour les vendre en tableau. Un point qui a été dit lors de la soirée inaugurale de l'ANIA Toulouse, l'Association Nationale de l'Intelligence Artificielle, donc tu es cofondateur du chapitre toulousain, et que j'ai souvent entendu ailleurs par d'autres producteurs audiovisuels, c'est l'extrême importance du vocabulaire. En fait, tout ce qui fait la qualité d'un prompt, c'est le vocabulaire utilisé. C'est le vocabulaire du product owner, du scénariste, du décorateur, du metteur en scène, du directeur photo. Ou est-ce que finalement, c'est tout à la fois?
Alors, c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire qu'un prompt, plus il est enrichi de spécificités, de choses très pointues, plus le résultat final va se rapprocher d'un résultat professionnel. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je crois que je l'ai dit effectivement à la soirée de l'ANIA, j'intègre dans mes prompts, ça peut être le modèle de caméra, la pellicule, la focale, les informations, les orientations de lumière, l'époque, le lieu, enfin tout ça, qui peuvent avoir une incidence sur l'image finale. C'est-à-dire, j'ai un peu la main là-dessus, et la différence entre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur l'image, qui va dire « fais-moi je sais pas quoi », et une personne qui maîtrise ça, qui va dire que c'est telle caméra, tel modèle de caméra de telle époque. Pour donner un exemple, si je veux une image de très grande qualité, je veux dire que ça a été shooté avec un Hasselblad, je ne sais quel modèle, telle pellicule, dans tel contexte, avec tel type de lumière, etc., etc.
C'est-à-dire, si là, j'improvise, ma question qui est déjà préécrite, tu me prends chez Ikea trois fauteuils Brobok, mais surélevé de 50 cm devant une table, Scalsta, mais avec un plateau en marbre vert translucide Pantone PMS 3415, et je veux qu'on tourne tout ça en Technicolor trichrome, avec un éclairage à 5600 degrés Kelvin, et que les acteurs aient un fond de teint mat couleur terracotta Trump en plus granuleux, c'est à peu près ça.
Ah, mais complètement. T'as tout compris.
Je tiens à signaler qu'on avait un jeu tous les deux.
Bravo.
Quand on travaillait dans une chaîne de télévision musicale, on avait un jeu, c'était regarder l'équipe. Et toi, j'ai connu des graphistes qui retrouvaient le nom de la police, même quand elle était légèrement tiltée et tout ça. Et toi, ton truc, c'était le catalogue IKEA. T'étais très fort à ça.
Ah bon, je me rappelle plus.
C'est vrai que tout le monde utilisait IKEA dans tous les clips aux États-Unis, en France.
Ah oui, c'est pas faux. Maintenant que tu me dis ça, ça me parle, oui.
Mais en gros, c'est ça. Plus on est technique et plus, en fait, justement, plus on a la culture matérielle et qu'on sait de quoi on parle, plus l'IA se rapproche de ça.
Mais exactement, tout ça, ça peut être injecté dans l'IA, ça peut être injecté dans un prompt de rajouter toutes les informations qu'on a dans la tête. Moi, je parle à l'IA de la même façon que je parle à mon chef opérateur pour lui dire je veux telle focale, tel placement, telle hauteur de caméra, telle valeur de cadre, etc. Tout ça, elle le comprend. Ouais.
Donc, pour reprendre l'exemple qu'on avait pris dans la première partie de l'interview, qui était j'ai tourné une vidéo, je la fournis à l'IA, c'est reprends-moi les valeurs de plan, de zoom, de lumière, applique-les à une autre scène telle que je te l'ai décrite, ça passerait, quoi.
Oui.
C'est impressionnant.
Ça passerait bien, oui, tout à fait.
Et t'as parlé principalement de Midjourney. Est-ce que c'est vraiment l'outil principal que tu utilises? Tu as d'autres outils derrière pour travailler?
Alors, non, c'est pas l'outil principal et je suis en train de m'en éloigner de plus en plus parce que Midjourney a des limites. Alors, pour faire de l'image artistique pure, je trouve que c'est un très bon outil pour faire de l'image fixe, artistique pure. Après, aujourd'hui, pour faire de la vidéo, j'ai basculé principalement sur une sorte, si on peut appeler ça un portail, qui s'appelle Highfield, qui regroupe plein d'outils et qui a toujours à la pointe des nouvelles variations d'outils.
C'est-à-dire, t'as un connecteur central, tu fournis une fois ta carte bleue et tu peux essayer ton prompt sur plusieurs
exactement,
à la fois,
ouais.
D'accord.
Sur cet outil-là, il y a accès à Kling, à pas Midjourney, mais à Nano Banana Pro.
Le nouveau moteur de Google dont beaucoup de gens font des gorges chaudes.
Ouais. Exactement. C'est un outil incroyable, hein, Nano Banana Pro, vraiment. Pour tout ce qui est très très réaliste, c'est pour moi l'outil parfait.
C'était quelque chose que tu avais dit justement à cette soirée publique, où tu avais dit que si vous prenez un abonnement à un outil spécifique, prenez un abonnement mensuel plutôt qu'un abonnement annuel. Ça te permet aussi de zapper rapidement sans trop te poser la question.
Oui. Alors, exactement, parce que il y a quelques mois, je trouvais que il y avait des nouveaux outils qui apparaissaient. Finalement, on se disait, ah, ben, finalement, il est mieux que celui que j'utilisais le mois précédent. Mmh. Et le problème d'un abonnement annuel, on s'engage, c'est une certaine somme sur un an. Et s'il y a un nouvel outil qui sort, à moins d'avoir de très gros moyens, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le seul outil sur lequel je suis abonné annuellement, c'est Midjourney, comme je l'ai dit. Mais parce que j'avais pris un abonnement d'un an, donc, qui se reconduit. Et aujourd'hui, il y a que Highfield sur lequel que j'utilise mensuellement. J'ai un abonnement mensuel, mais je pense que je vais peut-être basculer sur un abonnement annuel prochainement parce que les prix sont beaucoup plus intéressants et surtout, ils proposent tous les derniers outils, toutes les versions, les dernières versions des outils les meilleurs outils, ouais. Ouais. J'ai un abonnement aussi sur ChatGPT parce que c'est un outil incontournable aujourd'hui pour l'écriture du prompt. Parce que souvent, mon workflow, j'écris d'abord un prompt un petit peu au kilomètre comme ça. Je le passe dans ChatGPT, je lui demande de me le réécrire, adapté à l'outil dans lequel je travaille.
Ah, en disant, ce sera pour tel moteur,
exactement.
Etc. Ah,
je veux
oui.
dire, par exemple, si je veux créer une image, je vais décrire mon image, etc. Et comme je suis pas le type infaillible pour l'écriture du prompt, une fois j'écris mon prompt, je vais demander ChatGPT, réécris-moi ce prompt pour Midjourney 7. Optimise-le moi pour Midjourney 7 et il va du coup le réécrire, il va mieux comprendre ce que je veux dire. Alors que si je prends ce même prompt, je le copie directement dans Midjourney, il va y avoir des problèmes. Tandis que ChatGPT, c'est un outil absolument génial pour ça. Ouais.
Alors là, on parle surtout d'outils qui ont été conçus aux États-Unis. Est-ce que tu as essayé justement, s'ils existent, les moteurs qui sont conçus en Europe ou en Chine? Et est-ce que tu as vu des différences notables, par exemple, si tu dis Place Tiananmen, 1989, scène de joie?
Alors malheureusement, j'ai pas fait ce genre de test. J'ai testé le... Non, j'ai... Alors, en plus...
Nous fâchons pas.
Je crois que un des rares outils chinois que j'utilise, c'est... Je crois que Kling est chinois, mais j'en suis même pas sûr. C'est difficile de savoir quelle est la nationalité, entre guillemets, de l'outil qu'on utilise. Hein. Je sais pas si toi, t'as une manière de le savoir. Par exemple, ChatGPT, c'est américain.
Oui.
Ça, on le sait. Après, il y avait...
Il y a Mistral qui est français. C'est l'un des rares.
Et est-ce que t'es sûr que c'est vraiment français? Parce que moi, j'ai lu sur...
Et ils ont repris le code source open de ChatGPT, mais ils ont dû concevoir leur propre bibliothèque d'inférence et tout ça derrière.
Mais j'ai lu qu'il y avait des capitaux américains de chez Mistral.
Oui, mais ça...
Donc, ça veut dire qu'ils ont un peu un droit de
oui,
regard.
Oui, mais il y a des, il y a des capitaux américains, oui, tout à fait. Mais par contre, juridiquement, ils sont placés différemment. Donc, peut-être qu'ils ont des sources différentes et tout le reste.
D'accord.
Comment récupères-tu les livrables que te fournit en fait l'IA générative pour tes vidéos? Direct en format vidéo MPEG, en DCP, tu peux demander un export avec Alpha Channel ou des objets en 3D pour tes compositing?
Non, alors les outils que j'utilise produisent... Alors, je pense que c'est du H264 et encore, j'en suis même pas sûr. Je sais pas quel est le codec qui est utilisé. C'est une M4V.
Le minimum pour le M4V, c'est du H263-264, oui.
Ouais. Et je vois là aussi l'évolution. Auparavant, c'était du 720p. Ensuite, c'est maintenant, ça devient presque la norme de faire du 1080p. Ensuite, on passe par des outils d'upscale, type Topaz, ou il y en a d'autres qui permettent de faire de l'upscale de très grande qualité. Et justement, le portail que, enfin, j'appelle ça un portail Hackfield que j'utilise, a des outils d'upscale. Et ils mettent...
c'est inclus.
Oui. Il y a l'outil, notamment Topaz, qui est accessible via...
Donc, ça te permet de payer moins de tokens, du coup, à la commande, ouais.
Et surtout, je sais que Topaz, c'est un outil qui est assez cher.
D'accord.
Je voulais l'acheter, je crois que le programme coûte 150 ou 200 euros, et puis après, il y a un abonnement, enfin, c'est horrible, quoi. Ouais.
C'est là que passe le prix de vos Blu-ray édition 4K de vieux films.
Et en plus, deuxième problème que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que Topaz est installé sur ta machine. Résultat, ça demande des ressources colossales pour traiter.
Et résultat... Oui, mais tu dors. À oui, ton PC, et puis voilà.
Oui. Non, mais c'est, en termes de productivité, c'est pas terrible. Tandis que, quand toutes les requêtes sont sur des serveurs déportés, c'est bon. Alors, je sais que c'est pas bon pour la planète, comme tu me l'as dit. Mais c'est quand même plus, voilà.
Ça dépend. Ça dépend. Un PC peut consommer plus à usage équivalent qu'un serveur.
Ouais, ok.
Bah oui, ne serait-ce que l'écran. Quand un outil est meilleur qu'un autre sur un domaine particulier, est-ce que tu peux panacher ces outils sur une même scène ou entre scènes différentes? Ou ça existe pas encore?
Ah mais carrément, je fais ça justement. Souvent, je fusionne les outils, selon ce que je veux. Si c'est, je te dis, de l'artistique ou du l'hyperréalisme, pour de l'artistique, je vais basculer sur Midjourney parce que ça comprend très bien les instructions artistiques. Mais si je veux de l'hyperréalisme, je vais plutôt travailler avec Nano Banana Pro, par exemple. Et pareil, la post-production, je la fais avec des outils traditionnels du type Final Cut ou DaVinci Resolve ou des choses comme ça. C'est-à-dire, je crée les rushes, les parties de ma composante du futur projet, et ensuite je les monte et je les retravaille parce que justement, chose que font peu les gens, j'ai remarqué, c'est que souvent ils utilisent les images sorties brutes de l'intelligence artificielle, donc elles sont parfois un peu ou synthétiques ou cristallines, alors que moi, j'applique des filtres pour ajouter du grain, les altérer un petit peu.
C'est ce que tout le monde reproche à l'IA générative, c'est look trop clean au premier plan et tout ça.
Oui, et puis il y a aussi une patte. J'ai remarqué par exemple, quand tu t'amuses à faire des images sous ChatGPT, elles ont souvent une espèce de coloration légèrement dorée, jaune, un peu verte, je sais pas quoi. Et ça, voilà quoi. À moins de l'avoir indiqué peut-être dans le prompt, de créer une image un peu plus froide ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, ChatGPT, il y a un look ChatGPT qui est propre à l'outil.
On est encore trop près du Technicolor Trichrome, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui veulent savoir, cherchez l'histoire de la technologie Technicolor. Ça vous fera rechercher. Si tu es pas très satisfait, est-il possible de lui faire sortir des concept art, des objets ou des scènes modélisées en 3D, trucs comme ça?
Alors, en ce qui concerne la 3D, encore une fois, je n'ai pas trop utilisé. Je sais qu'il y a des outils, encore une fois, dans Hackfield qui permettent de faire de la 3D, mais je les ai pas trop utilisés parce que pour l'instant, j'ai pas été extrêmement convaincu. J'ai testé un truc qui était pas mal du tout. C'était le fait de rentrer par une paire de chaussures dans cet outil-là. Et il était capable, je ne sais comment, de l'imaginer en 3D et de, on pouvait la faire pivoter. Tu sais comme on appelait ça du QuickTime VR à une époque. Alors, je sais pas, tu vois.
Oui, c'est l'effet Bullet Time de Matrix.
C'est ça. Juste à partir d'une photo, Il est capable d'imaginer le dessous. Tu te dis, mais comment il fait, quoi? C'est-à-dire, je pense qu'il va chercher des sources à partir de la photo qu'on donne, des sources sur Internet, il va extrapoler le produit, mais j'ai vu des choses, des outils, mais je les ai testés il y a plus d'un an. J'ai trouvé ça moyen, mais je pense que ça a dû bien évoluer aujourd'hui et que ça doit être quand même pas mal du tout pour de la 3D aussi, hein. Mais j'avoue qu'on m'a pas, pour l'instant, orienté vers des demandes comme ça, parce que sinon il faut avoir un cerveau, et moi j'ai le cerveau qui explose, hein, faut de partir.
Le coup de vieux sur les scénarios de CSI, les experts. Zoom and announce. est-ce qu'avec les outils que tu utilises, tu penses qu'il est possible de collaborer à plusieurs metteurs en scène? C'est-à-dire plusieurs personnes qui travaillent collaborativement sur les mêmes types de prompts?
C'est une bonne question et je vais avoir du mal à répondre parce que je ne sais pas s'il y a des outils collaboratifs en IA, mais je pense que ça doit être possible pour des scénarios, choses comme ça, du texte. Après, en image, je ne sais pas. Parce que c'est souvent un prompt, un résultat. Ça va très vite, hein. C'est prompt, résultat. Je sais pas comment on pourrait s'intercaler une autre personne au milieu de tout ça, ou leur partage le prompt pour qu'elle réintervienne. Je ne sais pas.
Tu sais, on a un truc en développement informatique qui s'appelle le pair programming. C'est-à-dire, on est deux derrière un clavier et à tour de rôle, chacun prend le clavier, on commente, etc. D'accord. Donc, il y a plein de stratégies.
Alors, ouais, d'accord.
Tu vas te mettre à autre chose que le basique, hein.
C'est sûr.
Et alors, attention, là, je vais faire une analogie par rapport au design web. Peut-on imaginer une scène en design liquide? Alors, le design liquide, c'est-à-dire qu'on réarrange dynamiquement, sans y penser, en fonction du cadrage en cinémascope ou en vertical smartphone. Tu vois pas trop le truc?
Si, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire réorganiser une scène pour qu'elle soit adaptée au format, c'est voilà. Ça?
Alors, je le dis pour les auditeurs qui comprennent pas. Vous allez sur un ordinateur, vous mettez en plein écran votre navigateur web, vous tapez cpu.pm et ensuite vous changez la largeur et vous allez voir que c'est moi qui ai conçu tout ça, donc forcément c'est bien fait. Tout va se réorganiser par ordre de priorité en fonction, en fait, de la largeur employée.
Alors, ta question, c'est est-ce qu'on peut imaginer une scène en design liquide, c'est-à-dire que ça le fasse automatiquement, c'est-à-dire on tape un prompt, par exemple, avec un descripteur.
Et je vais dire, je veux quatre sorties vidéo différentes, une en 4K, l'autre en 1080, et une en SD, l'autre pour smartphone en vertical.
C'est tout à fait possible, et je vais te dire, ça va même plus loin que ça. Alors, une réadaptation en fonction du format vertical, 16:9, ou format ultra cinémascope, version Technicolor, comme les westerns de notre enfance, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et pire que ça, il y a des outils aujourd'hui, tu crées une seule image d'un personnage mis en scène, et tu lui demandes de te décliner 9 axes caméra avec des valeurs de plan différents. Il est capable de le faire en gardant la consistance du personnage. C'est incroyable. Et en plus, il te fait des suggestions de cadre auquel tu aurais même pas pensé. Des plongées contre plongées hallucinantes, des visions subjectives, placer la caméra derrière le crâne, etc. Moi, au début, je tapais tout ça dans mon prompt, c'est-à-dire je donnais les instructions où devait être placée la caméra. Aujourd'hui, je crée une image et je lui demande, fais-moi des propositions, il va me sortir des choses. En termes de productivité, ça va très, 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 très vite.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Monsieur Cruz, Jean-Louis, tu as commencé ta carrière comme réalisateur traditionnel, où tu as eu une carrière riche pendant 25 ans, et ensuite tu es passé à l'IA générative. À ta connaissance, combien de réalisateurs audiovisuels sur Toulouse utilisent de l'IA générative dans le domaine vidéo?
Alors, a priori, il y en a très peu. Il y en a un qui m'a contacté sur LinkedIn, alors malheureusement, je suis désolé, j'ai oublié son prénom et son nom, mais je suis en contact avec lui. Il souhaiterait justement qu'on se regroupe entre réalisateurs IA sur Toulouse pour échanger, pour construire quelque chose commun, et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il y a une autre personne que j'ai croisée au cours de la soirée, Anya, une personne qui fabrique du vidéo mapping en IA, et qui lui travaille sur des gros projets parce qu'il a travaillé sur le vidéo mapping de l'Arc de Triomphe, et il intervient aussi
du mappage lumineux sur structure 3D. Ouais.
Vidéo mapping, mais il le fait en intelligence artificielle.
D'accord, oui, parce que normalement, c'est fait avec de la télémétrie laser au départ, et ensuite, tu fais de la projection 3 avec des softs 3D, ouais, c'est assez lourd.
Alors, ce que tu évoques, la télémétrie laser, c'était il y a très longtemps. Entre-temps, on a créé des images faites sur After Effects, par exemple, et là, ces animations sont faites en intelligence artificielle, parce que ça va plus vite, et il crée aussi des décors pour des émissions comme la Starac, quelque chose comme ça. Et c'est un Toulousain.
D'accord.
Voilà.
On a un trope avec la Starac. Vu qu'on est justement à Toulouse, on a des studios d'animation qui cartonnent internationalement, les studios TAT, qui notamment ont fait plusieurs dessins animés, ils ont fait la dernière série Astérix sur Netflix d'Alain Chabat et tout le reste. Est-ce que tu as discuté avec eux, sachant qu'ils font à la fois de l'animation traditionnelle et de l'animation 3D?
Alors non, malheureusement, je n'ai pas discuté avec eux, mais ta suggestion est excellente. Il faut absolument que je rentre en contact avec eux. En fait, pour tout te dire, je ne suis en contact avec quasiment personne sur Toulouse, parce que j'ai beau être né quai de Tunis, à côté de chez Claude Nougaro, j'ai jamais travaillé à Toulouse. J'étais toujours localisé à Toulouse, mais j'ai travaillé beaucoup à l'étranger avec d'autres. Et je rêve de rentrer en contact avec des gens sur Toulouse, parce que il y a un mood, il y a un état d'esprit ici qui me plaît et qui me correspond. Et je lance d'ailleurs un appel, si jamais des personnes me contactent sur mon mail jeanlouiscruz@mi.com ou sur mon site internet, quel qu'il soit, je serais ravi d'échanger avec eux.
D'accord. L'IA générative entraîne une chute des tarifs et des prestations, mais est-ce que ça fait quand même des frictions avec les clients? Soit parce que c'est trop cher pour ce que l'on paie, soit c'est, non, on n'a pas envie d'IA générative pour ce projet.
Alors, en France, on était très réticents à l'IA générative. Mais ça, c'est culturellement français, parce qu'on est un pays de création, etc., pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Par contre, à l'étranger, moi, j'ai déjà travaillé sur des pubs pour le Maroc, par exemple. Ils sont beaucoup plus en avance que nous, dans le sens où, pour les gens, que ce soit IA ou pas IA, c'est pas un problème. Et ton autre question, c'est la chute des prix, des tarifs,
oui,
c'est ça? Alors, oui, ça coûte moins cher l'IA générative, une production d'IA générative, mais à côté de ça, il faut pas penser que les gens payent un coût de production uniquement ou un temps mis à le créer, mais ils payent aussi un savoir-faire et voilà. Donc, alors oui, le tarif est plus bas.
Mais si tu paies pas l'expérience derrière,
oui, c'est
ça t'a pris deux heures pour faire tel truc, mais il y a eu les 20 ans d'expérience derrière pour faire ça.
Oui, et aussi la partie savoir-faire, direction artistique, créativité, etc. Moi, je te dis encore une fois, j'ai une grosse société de production au Maroc qui m'a contacté, parce que pourtant ils ont des personnes très compétentes en interne qui font des spots publicitaires hallucinants et de très grande qualité. Mais ils ont pas la même patte que moi, donc j'interviens sur d'autres projets que eux, dans lesquels ils sont peut-être moins à l'aise.
C'est une patte d'expérience ou c'est une patte de culture?
Culturel, moi je dirais. Complètement, oui. Culturel, de personnalité. Tous les créatifs ont leur personnalité, leur mood, c'est ce que j'appelle la direction artistique. Enfin, qu'on appelle la direction artistique et la sensibilité. Je suis très à l'aise dans des domaines et dans les d'autres, pas du tout. On me demanderait de faire une pub sur un match de foot. C'est pas trop mon truc. Tu vois, voilà.
C'est vrai que c'est une question qui peut être un petit peu sensible, mais en termes de production pure, combien ça te coûte actuellement de produire une minute de film? Sachant qu'une fois que tu as trouvé le bon angle, trouvé le bon script et tout ça, en termes de rendu pur, combien ça te coûte à peu près?
Alors, tu parles financièrement?
Oui.
Une minute, déjà, je trouve ça très long. Je travaille pas sur une minute, c'est que des formats courts de spot pub.
Bon, alors, prenons un spot pub de 26 secondes.
Ça dépend du temps que je vais y passer. Parce que si tu veux, c'est comme les gens qui me demandent combien ça coûte de faire un clip. Ça dépend ce que tu mets
en termes de rendu.
Mais non, mais par exemple, si tu me demandes, par exemple, je dis n'importe quoi, un truc, je sais pas. Si je veux, par exemple, si je prends l'exemple, j'ai fait l'intérieur d'un avion, ça m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que il fallait que le design des sièges soit parfaitement respecte parfaitement le design, donc il a fallu alimenter avec des tas de sources de photos, d'images, etc., dans tous les axes, donc ça a pris du temps. Après, j'ai fait une autre pub avec des jus de fruits qui éclatent, des fruits, des ananas, etc. Ça prend moins de temps qu'un projet comme ça, donc c'est très difficile de dire combien ça me coûte à moi. Ça me coûte le prix d'un abonnement. Mais par contre, en termes de temps, c'est fonction du projet sur lequel je dois travailler.
Bien évidemment. Et puis, il y a les validations avec les clients, si tu es dans une charte graphique et tout ça, imposé et tout le reste.
Et puis même, chaque projet, pour l'instant, qu'on m'a demandé en IA, était un problème en soi, et qu'il fallait que, à chaque fois, j'apprenne un autre workflow, un autre outil. Tu vois, là, je te dis, on m'a demandé dernièrement de créer peut-être un spot publicitaire d'une future école. Il va falloir que je maîtrise cet outil-là. Enfin, ce fonctionnement-là, cette manière de créer des images qui n'a rien d'artistique hein, par rapport à notre projet. Donc, à chaque fois, je repars à zéro. Je pars d'une copie blanche.
Et si jamais les tarifs d'abonnement aux outils de génération par IA explosent, ce que tout le monde attend, ce que les financiers même qui prêtent à des sociétés qui sont spécialisées, ou même Oracle qui construit les data centers pour les principaux moteurs de rendu attendent, si ces tarifs-là explosent, largement au-delà de ce que tu paies actuellement, comment penses-tu pouvoir te retourner ? À te remettant à tourner ?
Non, je resterai sur de l'IA. C'est malheureusement une fois qu'on a goûté à ça, c'est un peu comme quand t'achètes des chocolats Lindt et que tu vas acheter des chocolats chez un grand chocolatier. Si tu veux, ça n'a rien à voir. Alors, enfin, je fais un parallèle qui est un peu bizarre, mais comment t'expliquer ? Je vois la difficulté que c'est le tournage traditionnel en termes de pré-production sur le tournage. La post-production, c'est extrêmement complexe et chronophage et prise de tête entre guillemets, hein, pour prendre cette expression. Et en plus, autre problème, une fois que c'est tourné, on ne peut plus revenir dessus, tu vois. Et on peut
difficilement,
pas.
Difficilement,
oui. Ah non, mais c'est terminé. Puis une journée de tournage, c'est un coût qui est extrêmement important. Et si jamais quelque chose ne fonctionne pas et qui n'a pas bien fonctionné, si tu dois le retourner, c'est pas bon. Et puis tu perds ta crédibilité en tant que professionnel. Tandis que l'IA, quand même, ça la touche pomme Z pour les gens qui utilisent le Mac hein, ou Ctrl Z, voilà, sur ton PC. Donc c'est fantastique. Et puis tu peux tester des trucs, faire des expériences, dire ouais, je vais tester un autre truc. Voilà, je trouve ça incroyable. C'est une facilité. Voilà, ça me serait difficile de revenir en arrière. Je continue à faire de la prod traditionnelle, mais en mode low cost, je veux dire, avec des iPhones ou des outils beaucoup plus légers, plus faciles. Mais franchement, l'IA, pour moi, c'est le début d'un truc incroyable. Hein. Voilà.
Jean-Louis Cruz, merci d'avoir bien voulu venir pour en parler et de t'être ouvert quand même avec beaucoup de franchises sur le domaine, ce qui est pas évident, je suppose, dans ton domaine par rapport justement à ce que tu as connu professionnellement avant. Et pour cela, je te remercie 100 000 fois.
Je t'en prie, merci Dasrich pour l'invitation, j'étais ravi de passer ce moment avec toi et avec les auditeurs.